Mon propos aujourd'hui, dans le cadre de cette semaine vie d'ordure, va être un propos en fait assez tranché, formé ici dans le département de sociologie. Je suis resté sur une posture, on va dire, critique, une tradition sociologique critique. Et là, on va dire que je, c'est pas que je m'en donne à cœur joie, mais compte tenu de l'ampleur de la catastrophe en cours, je pense que il faut adopter une posture catastrophiste, entre guillemets, mais au sens d'un catastrophisme éclairé, comme dirait Jean-Pierre Dupuis, le philosophe, pour précisément éviter le pire du pire. Voilà. Des recherches commanditées par l'ADEME, je l'ai indiqué, vont venir soutenir un petit peu mon propos, que je vais essayer de tenir dans les délais impartis. Pourquoi une posture assez ferme d'une certaine manière et assez critique, voire radicale? Parce que les enjeux tels qu'ils se présentent en termes de traitement des déchets ou de gestion des déchets ou de production des déchets, en fait, recoupent les problématiques fondamentales que vous connaissez de dérèglement climatique, d'anéantissement des ressources de la planète, voilà, des pans entiers de notre humanité qui s'écroulent sous nos yeux sans que nous fassions grand-chose finalement. Hein. Voilà. Alors tout ça n'est pas... Enfin, l'approche critique de ces phénomènes, identifiée depuis longtemps, hein, cette approche critique, elle a été portée, j'ai indiqué ici, depuis belle lurette, hein, parce que effectivement, on a dans la tradition, alors, de l'économie critique ou de la sociologie ou de la philosophie, des gens, des auteurs, qu'il convient, je crois, de relire, de revisiter. Et c'est pourquoi je ne me sépare quasiment jamais de mon Jean Baudrillard. André Gorz, bon, ça, c'est pas l'ouvrage d'André Gorz en particulier, mais un bel ouvrage à son propos qui vient de sortir, ou Günther Anders, ici, Obsolescence de l'homme. Bon, tous ces gens, avec d'autres noms que vous voyez ici sur la vignette, qui ont pensé, voilà, maintenant quasiment 50 ans, voire plus, ce qui nous arrive, hein, comme le dirait d'ailleurs le regretté Paul Virilio, qui lui aussi avait des choses à dire sur la catastrophe en cours. Et puis on a aussi effectivement des rapports qui ont fait date, hein, notamment le rapport du Club de Rome, là, les limites de la croissance, on en reparle beaucoup. Finalement, on revient par nécessité à tous ces écrits. Alors, je ne vais pas être très, comment dire, très long sur les théories, parce que voilà, c'est difficile ici de développer tous ces auteurs, mais je vais quand même vous proposer quelques petites citations qui resituent bien mon propos et la posture assez radicale déjà à l'époque que je partage pour ma part avec quelques autres ici. Par exemple, voici ce qu'André Gorz disait en 1975 dans Écologie et politique. La science et la technologie ont fini par faire cette découverte capitale. Toute l'activité productive vit des emprunts qu'elle fait aux ressources limitées de la planète et des échanges qu'elle organise à l'intérieur d'un système fragile d'équilibres multiples. Il ne s'agit point de diviniser la nature ni de retourner à elle. Ça fait écho à des auteurs qui postulaient un peu la nécessité d'un retour à la nature, mais de prendre en compte ce fait, l'activité humaine trouve en la nature sa limite externe, et à ignorer cette limite, on provoque des retours de bâton. Je crois qu'on y est, et bien même. Le plus loin que l'économie politique soit allée dans les remèdes a été d'envisager la croissance zéro des consommations physiques. Un seul économiste, Giorgio Rongen, a eu le bon sens de constater que même stabilisée, la consommation des ressources limitées finira inévitablement par les épuiser complètement et que la question n'est donc point de ne pas consommer de plus en plus, mais de consommer de moins en moins. Il n'y a pas d'autre moyen de ménager les stocks naturels pour les générations futures. Voilà ce qu'on pouvait penser dans les années 70. Gorz n'a pas été le seul. Alors là, il y a une petite synthèse par notre ancien maître et ami et directeur de thèse pour ma part, Yves Dupont. On avait produit un dictionnaire des risques en 2003 et Yves Dupont résumait un peu toutes ces théories critiques. Ici, l'industrie de l'enlèvement et du retraitement des rebuts est indispensable à la poursuite de la production et du mode de vie moderne. Les entreprises de retraitement des déchets s'apparentent ainsi à des liquidateurs, quasiment au sens de Tchernobyl, puisqu'on a travaillé aussi sur Tchernobyl, au quotidien et pour une durée indéterminée des immondices constitutifs en avant et en amont et en aval de la production de marchandises et du mode de vie industriel. C'est pourquoi, je prolonge avec Jean Baudrillard, il est donc illusoire de vouloir le résorber, le gaspillage, de prétendre l'éliminer, car c'est lui, de quelque façon, qui oriente tout le système. Et il y a cette phrase qui est très parlante, comme celle de Günther Anders ensuite, « La destruction des objets reste l'alternative fondamentale à la production ». Voilà. Baudrillard a été un des... avec Günther Anders, ses penseurs ont bien compris qu'il fallait vraiment penser ensemble la question des déchets avec les modes de production et avec, évidemment, un certain mode de production économique, à savoir le capitalisme, dans ce qu'il a de plus excessif, en tout cas. Et voici ce que dit Günther Anders dans l'obsolescence de l'homme. Donc Günther Anders, en 58, qui était un camarade de Hans Jonas et de Heidegger. Il est moins connu, mais il a été publié notamment grâce à Jean-Pierre Dupuis en France. Alors, il va un petit peu plus loin encore, je trouve, Anders, et c'est très intéressant. Celui qui croit rendre compte de la situation actuelle en disant « ce qui est produit aujourd'hui sera jeté demain » est bien en dessous de la vérité. La vérité, c'est que la production conçoit ses produits comme les déchets de demain, que la production est une production de déchets. Voilà. Et c'est un petit peu comme ça qu'il faut, avec cette entrée, je crois qu'il faut entendre tout ce que je vais vous dire ensuite. On partage pas ce point de vue, on essaiera de prendre 5 minutes pour en discuter si vous le souhaitez. Alors, dans le petit libellé que j'avais proposé pour aujourd'hui, je parlais d'un véritable marché, celui des déchets, au sens strictement économique du terme. Un petit rappel, données chiffrées, un rapport de la Banque mondiale assez récent, le volume des déchets produits chaque année va augmenter de 70% dans les 30 années à venir. Le recyclage représente un chiffre d'affaires de 130 milliards de dollars, parce que tout ça est très important dans ce domaine, la question numéraire et la question des profits par an. Et, belle piste pour les investisseurs, seulement 25% des ressources en déchets sont actuellement exploitées. Le déchet est une ressource, mais pour qui? J'ai repris cette expression, le déchet est une ressource, de nombre... ou une conséquence tragique en haut. En fait, c'est quelque chose qu'on a entendu dans la bouche de beaucoup de ministres, d'ailleurs, de l'écologie, paradoxalement. Madame Joanneau, une autre dont j'ai déjà oublié le nom, qui postule cette idée du déchet comme une ressource, sauf qu'il faut voir ce qu'on entend comme ressource. Alors, pour ma part, je pense qu'il s'agit de ressources, une ressource au sens strict, c'est-à-dire pourvoyeur de plus-value. Alors là, vous avez des noms de gens de fortune dans le monde qui se sont établis sur justement le traitement des déchets. Je ne les cite pas tous. Guy Dauphin Environnement, Veolia, Urbaser, ça c'est pour l'Espagne. Et puis, alors plus modeste mais néanmoins intéressant, la famille Nicolin à Montpellier. Ce qui est très intéressant, alors ils ont été un peu inquiétés par la justice, comme beaucoup d'autres d'ailleurs dans ce domaine. À cause des ramifications avec le monde du sport. En général, il y a de la diversification dans ce domaine et souvent on achète des clubs sportifs, etc. Ça permet peut-être de faire quelque peu évaporer quelques subsides, puisque avec ce marché, on est aussi dans un certain nombre de scandales politico-financiers, les mafias sont très actives. Alors là, je ne cite pas tous les exemples, mais possibles. Mais les mafias italiennes, on le sait, ont collecté les déchets pour les enfouir n'importe comment, ont rejeté en mer, ont plongé des bateaux entiers. Bon, les marchés publics truqués, qui souvent d'ailleurs viennent soutenir dans ce domaine, qui souvent soutiennent les campagnes électorales. Il y a des beaux exemples de marché assez trouble permettant de financer telle ou telle campagne électorale. Ça a été le cas pour M. Guérini au Conseil régional des Bouches-du-Rhône, qui a été condamné, qui a fait de la prison d'ailleurs. On a plus récemment un scandale Veolia avec un montage important avec une société luxembourgeoise. Guy Dauphin Environnement, condamné à 1,5 million d'euros pour escroquerie, un scandale en Bulgarie. Bon, alors c'est assez simple en plus de truquer les choses dans ce domaine, puisque pour l'avoir vu fonctionner, hein, moi j'ai donc visité beaucoup de centres d'enfouissement, de traitement des déchets divers et variés, d'incinérateurs et autres. En fait, il y a une pesée à l'entrée des camions, hein, et c'est très simple, hein, c'est comme on peut pratiquer ou qu'on pratiquait parfois sur les marchés. Bon, il y a la répression des fraudes qui est là de temps en temps. Voilà, la balance n'est pas complètement calée, équilibrée, mais on fait pareil pour les camions. Donc les gens, par exemple, de Guy Dauphin Environnement, sous-pesaient à hauteur de 20% sur certaines matières et au contraire surpesaient sur d'autres en dégageant des marges d'un côté ou de l'autre. Hein. Alors vous avez de temps en temps des rapports ou des enquêtes un peu critiques, l'association là, Que Choisir, qui avait sorti là, une enquête sur la gestion des déchets en France et son coût pour le porte-monnaie des Français, sa faible efficacité environnementale, et d'observer que la facture des ménages n'a cessé de croître de 2008 à 2012. Les ménages ont vu leur facture augmenter de 24%, c'est-à-dire que quand bien même on pratique notre tri comment dire, très encadré ou très sollicité, et tant mieux si on arrive à réduire la catastrophe en faisant chacun notre tri sélectif, cela n'engendre pas forcément une amélioration de l'ensemble des dispositifs environnementaux, mais aussi même pas du tarif de la collecte des déchets ménagers. J'ai entendu récemment, là, c'est pour ça que j'ai mis cette référence de France Culture, le business nébuleux des déchets recyclables, l'Asie du Sud-Est, nouvelle décharge des pays riches. Bon, voilà dans quel univers nous sommes, hein. Il faut le savoir, ça concerne d'autres secteurs d'activité industrielle, mais c'est un univers extrêmement trouble où on retrouve un certain nombre de malversations. Alors, un marché. Alors là, j'ai mis régulateur des inégalités, point d'interrogation. Comme vous le savez, et d'ailleurs c'est rapporté dans l'exposition, là, dans le hall de la MRSH, j'ai aperçu ça tout à l'heure, qu'il y avait un certain nombre de photographies concernant justement les chiffonniers du Caire. Il y a des traditions, parfois très très anciennes, hein. Les historiens d'ailleurs montrent que la récupération, le système de collecte des résidus, des boues, autrefois comme on disait à Paris, tout ceci existe de tout temps et a toujours fait fonctionner une économie un petit peu parallèle, permettant à une partie des populations de s'en sortir, hein. Mais d'une certaine manière, je ne sais pas si le marché y trouve intérêt, entre guillemets, mais voilà, d'une certaine manière, on permet une certaine paix sociale, entre guillemets, dans la mesure où on a toute une armée de petites mains, si j'ose dire, et parfois de très petites mains, comme vous le voyez, pour procéder à une sorte de tri sauvage, des sélections, de recyclage d'une manière ou d'une autre, sachant que tout ceci finit quand même dans des filières bien organisées et assez rétributives pour ceux qui s'en chargent, qui s'en occupent de ces filières. Voilà. Alors, oui, j'ai même indiqué les hommes eux-mêmes devenant des déchets. Ça, c'est les propos de Sigmund Baumann dans un bouquin qui s'appelle Vie perdue, justement traitant de ces situations où les hommes eux-mêmes deviennent en quelque sorte des résidus de l'humanité, hein, quelque chose de cet ordre-là. Pour avoir étudié la situation à Madrid dans le cadre d'une des études que j'ai évoquées, on a observé des phénomènes très particuliers. Alors, dans le cadre, alors c'est un exemple parmi tant d'autres, hein, de ce qui peut se jouer dans les rues pour la mainmise sur les déchets. Dans les années 2010, suite à une demande très forte de la Chine, le prix de la tonne de papier et carton, donc, a augmenté considérablement. Ce qui fait que ce qui était réservé, enfin, les containers dans les rues de Madrid qui étaient laissés libres d'accès, et c'était plutôt les gitans en fait qui récupéraient, vous voyez une image sur votre droite là, qui récupéraient dans les containers ces papiers et cartons pour les revendre, et d'une certaine manière, ça leur permettait un petit peu de s'en sortir. À partir du moment où c'est devenu un produit assez recherché, vous avez plutôt des gens venus des pays de l'Est qui s'y sont mis. Ça a créé des conflits très importants entre les gitans et les gens des pays de l'Est. Il y a même eu des manifestations pour la première fois à Madrid de gitans, gitanos là-bas, contre alors le fait qu'ils soient un peu dépassés par d'autres communautés, mais aussi je ne lis pas la vignette entièrement, mais aussi du fait que finalement, les sous-traitants de la mairie de Madrid ont demandé l'exclusivité sur ces cartons et papiers et ces containers, donc. Et la mairie n'a pas hésité à produire un arrêté municipal, voilà, considérant comme un vol et dégradation du mobilier urbain de la municipalité le fait d'aller récupérer les cartons, avec des amendes extrêmement sévères à l'appui. Voilà. Alors après, tout ceci pose tout cet univers de récupération et de, j'allais dire, de ce qui permet aussi finalement une certaine insertion sociale, une manière de vivre. C'est très questionnant, on y reviendra peut-être ce soir, je vous le signale au cas où, à l'IRTS, Karine Villemagne interviendra de nouveau à 18h30 avec une orientation plus du côté du social. Et on diffusera en cette occasion une expérimentation qui a lieu à Vancouver, qui a eu lieu ou qui perdure peut-être à Vancouver, qui a été filmée par un cinéaste canadien d'ailleurs, et où il est question de collègues, de ramassage, de gens démunis qui, grâce à une association, donc rapportent un certain nombre de choses collectées et s'en sortent. Et donc on peut évoquer une certaine insertion sociale. Quand on voit la situation qui est faite ici ou là dans un certain nombre de contrées, on peut se poser des questions que j'ai posées ici, hein, éthique, sociale, morale. Jusqu'où va-t-on dans l'accompagnement de ces pratiques, hein? Parce que, à un moment donné, évidemment, ça produit de l'équilibre social que de permettre une certaine intégration sociale grâce à de la récupération, et en même temps, ça reste potentiellement questionnant. Jusqu'où on va, où place-t-on les limites entre ce qui serait de l'ordre de l'insertion sociale ou bien de l'ordre de l'accompagnement qui serait plus trop social, mais qui serait de l'accompagnement des pratiques inégalitaires du marché, pour le coup. Alors, là, il y a toute une série de vignettes, mais pas trop quand même. Ça va, je suis dans les temps. Pour mettre en avant les contradictions tenaces de notre époque et les contradictions des propos, des politiques publiques, etc., à l'égard de l'environnement, de l'écologie. Bon. Comme vous le savez, de plus en plus, alors on voit ces opérations, propreté, éducation à l'environnement, d'une différentes manières. Et puis là, alors, c'est volontairement visuel, ce que je vous propose ici. Vous avez une plage à Dunkerque d'un côté, bon, tout le monde s'y met, c'est sympathique, on enlève les déchets. Mais il y a du boulot, comme vous le voyez, en dessous, puisque l'étendue de la catastrophe, c'est quand même aussi ce que l'on voit en dessous. Et dans le même temps qu'on va donner des clés de bonnes pratiques, dans notre jargon aussi, en travail social, à des enfants, dès l'école, hein, et au plus tôt, dans le même temps, d'autres enfants jouent dans les immondices que vous voyez. C'est-à-dire que, je vais y revenir un petit peu après sur une autre vignette, je crois qu'il faut aussi considérer le problème à l'échelle planétaire. On est bien... Voilà. Tant mieux si ici ou là on adopte un certain nombre de pratiques assez vertueuses. Globalement, par rapport à l'équilibre de la planète et à l'ampleur de la catastrophe, il faut en passer nécessairement, j'y reviendrai sans doute à la fin, par des politiques internationales dignes de ce nom, ce qui n'empêche pas, hein, des bonnes pratiques locales. Un exemple particulier justement de ces ambiguïtés des discours et de la contradiction tenace de la fameuse transition écologique. Vous aurez remarqué d'ailleurs qu'on parle de transition désormais. Moi, ça m'a interpellé quand le ministère de l'écologie est devenu un ministère de la transition écologique, c'est-à-dire qu'on est dans la transition. Jusqu'à quand? Pour aboutir à quoi? Bon. Et la question du plastique est assez illustrative de ces contradictions. Donc d'un côté, voilà, le Parlement et le Conseil européen sont tombés d'accord pour bannir 8 familles de produits jetables. Vous avez tous entendu parler dans les médias que vous n'allez plus avoir votre jolie paille pour boire votre caipirinha ou votre cachaça. Mais ce qu'il existe par ailleurs, alors ça je reprends les propos, j'aime beaucoup, je vous recommande les sites de Plastique Europe, que ce sont les fabricants de plastique en fait. Donc, et ils sont très bien documentés, ils ont des très bons chiffres pour montrer leur très bonne santé. En 10 ans, la production de plastique dans le monde a augmenté de 103 millions de tonnes, soit d'un tiers En passant de 2006 à 2007, on est arrivé donc à 348 millions de tonnes actuellement. En France, la reprise est bien marquée. Alors, ce sont les propos hein, de Plastic Europe, hein, c'est la communication de ces entreprises. L'année 2007 a montré une progression significative des indices de la production et de la transformation, 8% pour la production à comparer, à 3% pour l'Europe, 4% pour la transformation à comparer. La France est bien placée, donc cela pourrait être le signe que l'industrie a regagné en compétitivité. Voilà. Alors comme j'aime beaucoup la manière de présenter les choses, je reprends encore tout un libellé de cette entreprise, enfin de ce regroupement d'entreprises, hein, c'est une fédération. En pleine euphorie, donc la production mondiale de matières plastiques a poursuivi sa croissance en 2007. La production mondiale a augmenté de 4%. Pour la troisième année, la production a en effet augmenté dans tous les secteurs clients, particulièrement dans les deux secteurs importants consommateurs de plastique, l'automobile, je vais y revenir après, parce que j'aime beaucoup aussi l'automobile. J'ai fait une thèse sur le risque routier, j'y reviendrai peut-être à partir d'une vignette, où la croissance a presque doublé, et les équipements électriques et électroniques, et ça augmente, comme vous l'imaginez, de manière exponentielle. Autre secteur dont la croissance progresse encore, celle des deux années précédentes, l'alimentation et les boissons. Et de conclure, j'aime beaucoup cette phrase, l'industrie des plastiques répond à des besoins planétaires. Bon, on voit bien le décalage. Alors j'ai mis des belles photos d'usines et puis des molécules là, de polymères, des granules de polymères hein, qui permettent de fabriquer tout ça. On voit bien le décalage, si vous voulez, qu'il peut y avoir entre... qu'on interdise les pailles et puis les couverts en plastique, pourquoi pas, mais on est loin de répondre aux enjeux réels au regard notamment des plastiques. Alors, plastique et automobile. Le plastique n'allège pas encore l'auto, parce que l'argument des gens qui fabriquent du plastique par rapport aux automobiles, qui sont de plus en plus grosses, comme vous le savez, c'est de dire, mais oui, mais le plastique c'est léger, donc c'est bon pour le CO2 qui va être moins émis. Parce que plus on met de plastique, plus c'est léger. Voilà. Sauf que dans le même temps, les véhicules deviennent de plus en plus gros. Donc il y a un effet de compensation immédiat. Puisque 15 à 20% de la masse du véhicule donc, est équipée de plastique. Pour l'automobile, la croissance du plastique a presque doublé depuis 2015. Bon. La production automobile mondiale, elle, reste à des niveaux historiquement élevés. C'est pour ça que j'ai mis les petits vélos en bas aussi, pour montrer à quel point le fait, et c'est tant mieux, de mobiliser son énergie métabolique, comme dirait Ivan Illich, c'est une très bonne chose. Sauf que, on construit toujours autant de voitures et on roule autant en voiture. Sans parler de marché, comment disent-ils les fabricants, marché prometteur dans certains pays. Hein. Donc, niveau historique maintenu. Les performances sont toutefois contrastées selon les régions. La production en Europe a reculé de 4%. En 2008, des résultats décevants, mais la France a bien résisté et a vu sa production progresser de 2%. Là, j'ai repris des extraits de revues de l'industrie, enfin des entreprises. Donc, on est loin du compte pour répondre là encore au problème. De la transition automobile, ça, alors. Comme vous avez peut-être entendu récemment, il y a eu un salon de l'auto très important à Stuttgart ou à Francfort en Allemagne, et Greenpeace a fait une opération particulière pour montrer les effets délétères de l'augmentation du nombre de SUV, donc des véhicules un peu surélevés, la imitation 4x4, qui vont bientôt représenter, je crois, 60% du parc automobile en Europe. Enfin, c'est prévu comme ça. Et l'ADEME, donc, qui est une agence française où on ne trouve pas forcément des militants ultra-écologistes, hein, l'ADEME elle-même estime que le mode SUV impacte directement la moyenne des émissions des gaz à effet de serre du parc de véhicules. Malgré les politiques mises en place, y compris par l'ADEME d'ailleurs, vous voyez, ils sont quand même un petit peu ennuyés, pour favoriser les achats de matériel moins énergivore, l'ADEME souligne que les efforts à consentir restent énormes, car tous les gains réalisés sont annulés par la croissance de la part de marché des SUV. Voilà. Alors, pour la petite histoire, pour les plus jeunes d'entre vous, j'ai mis une 504 Peugeot à gauche, qui était à l'époque une grosse berline. Hein, voilà. Et quand on en voit, comme j'ai eu la chance d'en voir dans les rues de Beyrouth il n'y a pas très longtemps, parce qu'il y a un vieux parc existant, voilà. Et à côté, j'ai mis la même marque Peugeot, là, 3008 de maintenant. Et puis à côté, alors encore d'autres véhicules qui peuvent se justifier dans certaines contrées, je pense au Québec ou au Canada, où effectivement pour des questions pratiques et de travail même, hein, et on peut avoir recours à ce type de véhicule. Là, on voit, vous reconnaîtrez quand même qu'il s'agit plutôt d'une rue française assez classique, qui peut-être ne nécessite pas cette fois-ci un pick-up, comme les pick-up arrivent en force aussi. Hein. Voilà. Ah, ça, c'est pour le petit clin d'œil. En risque routier, puisque les gens qui achètent des SUV, notamment des collègues, me disent « Ah ben oui, mais je me sens plus en sécurité, c'est mieux. » Bon, moi qui ai fait une thèse sur le risque routier, je peux vous indiquer assez clairement que il y a toujours des effets pervers, c'est-à-dire à chaque fois qu'on a installé, à chaque fois que les gens se sentent plus en sécurité, en fait, soit ils roulent plus vite, soit ils font moins attention. Et puis aussi, il y a la masse percutante, qui est très importante, même si on a développé les airbags et autres dispositifs de sécurité intérieure, là. Le taux de tués par accident n'a pas. Alors, quand on dit un taux de tués par accident, on prend une centaine d'accidents et on voit combien de personnes sont mortes, c'est ainsi, dans les accidents. Et on était à 6, 6,5, je crois, dans les années 1970, avec les 504 que je vous ai montrés, là. Et on a diminué un peu, mais on n'a pas diminué beaucoup, finalement, le taux de tués, parce que passer une certaine vitesse, tous les dispositifs ne sont plus vraiment actifs. Alors, c'est ce qu'on appelle aussi l'effet rebond, qu'on retrouve dans d'autres domaines. Alors, l'ampoule, le fluo compact. Bon, il y a toujours, si vous voulez, un effet rebond au sens qu'on va laisser la lumière plus longtemps allumée parce qu'on sait que les ampoules consomment moins, etc. Concernant la consommation justement électrique des ménages, il y a une stagnation malgré les progrès techniques et les nouvelles normes d'isolation. Donc, on pourrait imaginer que ça ait pu baisser, mais en fait, ce qui vient pomper les ressources énergétiques, c'est notamment tous les nouveaux dispositifs techniques, technologiques, etc. Et sans même parler, alors, pour les véhicules électriques, tout ne nécessite pas forcément des ressources directes en production énergétique, puisqu'il y a une autoproduction d'une certaine manière, mais globalement, on estime que si la moitié du parc automobile français était équipé en hybride ou en véhicule électrique total, il nous faudrait 4 réacteurs nucléaires en plus. Enfin, ça pomperait l'équivalent. Vous me direz, on en a déjà 54, on n'est plus à ça près, on attend l'ouverture de l'EPR. En tout cas, pas d'évolution, si vous voulez, du point de vue de la consommation globale. Hein, voilà. Concernant le papier, pareil, on a évoqué la dématérialisation qui allait permettre justement d'économiser les ressources et donc moins d'arbres abattus ici ou là. C'est pas du tout ce qui s'est produit, puisque, je le rappelle rapidement ici, hein, au contraire, l'informatisation des tâches administratives et des entreprises a entraîné un besoin d'impression. Et effectivement, beaucoup de gens, moi le premier d'ailleurs, je dois le reconnaître, j'évite, mais on aime bien avoir disposé d'un document papier. Et voilà. Surtout qu'on a accès maintenant à beaucoup, beaucoup de ressources très intéressantes, plus qu'avant, grâce à cette dématérialisation Internet et compagnie. Donc, là encore, effet de compensation, voire de surcompensation et augmentation de la consommation de papier. La question, elle est internationale, et donc et j'ai ajouté, ou l'illusion du colibri. Bon, je suis un petit peu dur par rapport à notre camarade Pierre Rabhi, mais et à ses courants de pensée, mais que je respecte, hein, profondément. Il y a quelque chose de très intéressant dans l'idée de construire un certain nombre de réseaux fonctionnant sur le mode dit de la part du colibri, c'est-à-dire si chacun fait un peu, et voilà, on va réussir à produire quelque chose. Or, force est de constater ceci, visuellement là encore, des contrastes extrêmement saisissants. Il se trouve que je suis allé dans les deux villes qui figurent ici cette année. Le contraste pour moi était d'autant plus saisissant. Donc Copenhague d'un côté, un modèle en termes de pratiques écologiques, et puis Beyrouth. Les deux photos sur la droite, donc l'anti-Copenhague, sans parler des eaux usées qui se déversent directement dans la Méditerranée. Voilà. Mais je pense qu'il faut prendre la. On ne se rend pas compte, nous, quand je suis revenu, quand on est rentré du Liban et que sur mon France Culture habituel du matin, j'entends un exemple de choses formidables en écologie à Paris avec un mur végétalisé et puis des gens qui font du zéro waste, etc. et que vous avez encore les images en tête de la dilapidation catastrophique ailleurs dans le monde et qui progresse dans certains pays, vous vous dites, bon, c'est bien, essayons quelque chose ici, mais restons modestes sur les effets de nos pratiques éventuellement vertueuses. Mais peut-être que la vérité était dans la bouche de George Bush, père. Vous vous souvenez peut-être de cette phrase-là, le mode de vie des Américains n'est pas négociable. Tout était dit là dans ce sommet de la Terre en 92. Hein, voilà. Et le mode de vie des Américains, c'est quand même un petit peu le mode de vie qu'on a tendance un peu tous à adopter depuis le discours de Truman d'ailleurs de 48 qui avait été beaucoup étudié par Serge Latouche. Hein, où véritablement on a une sorte de guide où il faudrait que l'ensemble des pays de la planète suivent le modèle de développement industriel et économique des États-Unis. Et Trump, évidemment, qui quitte l'accord de Paris, considérant l'accord très inéquitable, je l'ai dit en français ici, sous-entendu trop coûteux pour l'économie et les emplois du pays. Donc c'est un vrai problème, si vous voulez, entre le contraste, encore une petite photo un petit peu facile, vous me direz, hein, mais bon, avec Trump, je n'avais pas envie de me priver. Mais c'est dramatique dans la mesure où, par ailleurs, voilà, dès le plus jeune âge aussi, on essaye d'inculquer un certain nombre de bonnes pratiques, alors même que la planète continue de souffrir. À moins que les déchets, autre solution, pour évacuer le problème, entre guillemets, un focus sur un dispositif technique que j'avais étudié dans les rues de Séville, qui s'appelle El Neumático, le pneumatique, si vous voulez, comme métaphore de la disparition du problème. Alors là, c'est intéressant parce que ça met en jeu la question de la technique par rapport à l'humain. Bon, je vais y revenir. Donc c'est un système de collecte automatisé, un groupe suédois, alors il n'y a pas qu'à Séville, ça existe ailleurs aussi, mais vous avez des grosses bouches là que vous ouvrez, vous mettez votre sac et ça part dans les tuyaux par pression d'air. Bon. Ça a été fait sur la base de fonds européens, alors les mauvaises langues là-bas disaient qu'il fallait dépenser l'argent de l'Europe, on ne savait pas quoi faire et donc on a sorti ça, d'autant qu'il y avait des velléités du maire à l'époque pour se faire voir pour les prochaines élections. Bon, voilà, tout ceci au bénéfice du tourisme, avec l'idée de, notamment dans ce quartier de Santa Cruz à Séville, très touristique, avec l'idée d'éviter que les camions poubelles passent et des petites ruelles. Voilà. Donc, sauf que les effets pervers ont été extrêmement nombreux, outre les travaux qui ont duré bien plus longtemps que prévu, qui ont pourri la vie des habitants du quartier. Des phénomènes de rumeurs très intéressants. On a adopté là une posture un peu ethnologique sur cette affaire-là. Nos sanangadianos, ils nous ont roulé, quoi. Les gens ne croyaient pas, ou certains ne croient toujours pas, au fait qu'on met le sac et il part tout seul. Et certains disent non, il tombe dans un trou et il reste là. Hein, ça, c'est toujours très présent. Il y a toute une petite mythologie autour des chats et des chiens qu'on jetterait là-dedans, voire pire. Pour des grossesses non désirées. Enfin, des gens nous l'ont dit, c'est dans la mythologie. Peut-être ça a eu lieu, on n'en sait rien, mais bon. Voilà. En tout cas, tout un imaginaire qui nous fait penser à la rumeur d'Edgar Morin. Hein. Bon. Et puis surtout, cette question de la technique finalement propose une disparition, une sorte d'abstraction des ordures ménagères. Sans compter les réticences des gens. Alors là, vous voyez, en plus, c'est très, sur les photos, vous voyez ce qui se passe. Les gens mettent à côté. Alors, pourquoi ils mettent à côté? D'une part, les industriels n'ont pas prévu que les paquets, pour certaines familles espagnoles, les sachets sont assez gros et ne rentrent pas dans la boîte. Et puis, tout simplement, que peut-être il s'agirait, alors, c'est une hypothèse un peu osée, hein, d'une forme de résistance des voisins, enfin, des habitants du quartier. À quoi? À l'idée, justement, de cette disparition. Une sorte de volonté, finalement, de garder une certaine, et c'est plutôt rassurant, humanisation de la collecte avec la présence, la trace, le bruit, avec les éboueurs qui passent, avec leur petite carriole, avec l'idée de se rendre compte, finalement, d'être mis en confrontation directe avec la manière de vivre qui produit cela. Voilà. Bon, alors j'ai développé tout ça dans le rapport de recherche, je vais pas revenir là-dessus, mais en tout cas cet exemple est intéressant, mais en même temps dramatique, parce que vous voyez bien comment cette chose est absolument très laide. Devant, vous voyez à droite des magnifiques maisons de Santa Claus du XVIe siècle ou XVIIe siècle, avec ces bouches devant, bon, c'est quand même pas très réussi pour un tarif extrêmement important, là où André Gorz, je crois, ou Ivan Illich pourrait le dire d'une certaine manière, là où on pourrait utiliser des dispositifs beaucoup plus autonomes et traditionnels, qui plairaient en plus aux touristes. Et nous, comme très, très directement, on a dit aux autorités là-bas, mais pourquoi vous ne mettez pas les tisanes que vous aviez autrefois avec, justement, ça ferait plaisir aux touristes, ça serait très typique, et ça passe très bien dans les ruelles. Moi, j'ai connu ça il y a 30 ans à Grenade aussi. Et voilà. Mais non, et ça coûte pas cher. Mais ça rappelle trop aux Espagnols leur état de pauvreté d'avant l'adhésion à l'Europe, etc. Ça renvoie à tout un imaginaire de la vétusté, là où on est dans un imaginaire volontairement de la consommation, de la dilapidation dans beaucoup de familles espagnoles désormais. Ouverture ou fermeture tragique. Bon. Ce que nous rappellent les déchets, alors, ça c'est moi qui parle, hein. C'est la manière dont nous vivons et à laquelle majoritairement nous adhérons et ne souhaitons pas renoncer, ou plus exactement ne pouvons renoncer. Sous-entendu, dans l'état actuel de notre système économique. Tellement le monopole radical de la production de ces déchets, de l'industrie de leur destruction et de leur recyclage, hein, faut vraiment intégrer ça là-dedans, empêche toute réorientation des modes de vie et de production. Avec la production et le traitement des déchets, on est bien dans un marché au sens de l'économie classique, orthodoxe. Je réponds en quelque sorte à ma question de départ de mon intitulé, hein. Pas dans une économie qui serait alternative, circulaire, vertueuse, et encore moins écologique, durable ou bienfaitrice pour l'humanité. Là, s'il y avait des responsables du traitement des déchets de la région dans la salle du CIVEDAC et autres, ils me sauteraient dessus, mais voilà, on verra. Collecter, retraiter, transformer, c'est ni plus ni moins permettre au marché de s'auto-reproduire et, ce faisant, de poursuivre la destruction de la planète. Est-ce qu'il y a des alternatives réelles, non pas des solutions, hein, comme tout le monde veut en vendre, mais une vision du monde peut-être qui permettrait de se sortir un peu des immenses difficultés dans lesquelles nous sommes et dans lesquelles nous allons aller de plus en plus. Des philosophes ont évoqué une heuristique de la peur, et moi je l'ai transformée en heuristique de la pénurie, c'est-à-dire les vertus, si vous voulez, de la pénurie. Il y a un très beau texte de Mike Davis qui s'appelle Écologie en temps de guerre, 2008, vous pouvez le trouver en ligne, je crois, qui pose bien la question de ce qui se passe lorsque il y a des difficultés, on est dans la pénurie. Et c'est extraordinaire ce texte qui montre comment les Américains, dans les années 45, soumis à des difficultés, se sont remis à faire du vélo, ont commencé à avoir des circuits de distribution un peu vertueux au sens de l'écologie, si l'on veut. Bon. De la même manière que les crises en Europe et en Espagne, ça a été le cas aussi, on a vu, à partir de 2008, revenir des petits métiers de réparation, de chaussures, etc. Sauf qu'on avait perdu les savoir-faire, il fallait réapprendre. Mais bon, tout ceci a eu un effet assez intéressant d'un point de vue écologique, tout comme. Je me souviens donc d'un colloque où j'étais invité donc au Québec, où j'avais même sorti, je crois, ou à moins que ça soit ailleurs, un sac plastique d'Union soviétique, puisque j'avais eu le loisir d'aller travailler dans une autre vie là-bas, donc j'ai pu voir aussi comparer les modèles. Et sans évidemment le modèle soviétique était productiviste et donc loin d'être vertueux. Néanmoins, comme il n'y avait pas ou peu d'industrie plastique, c'était très difficile à se procurer un sac plastique. Les gens gardaient leur sac plastique quasiment à vie, et j'ai encore le mien. Ramené d'Union soviétique d'il y a 35 ans, quoi. Voilà. Sauf que ces modèles de la pénurie qui peuvent engendrer des pratiques intéressantes, est-ce que ça renvoie véritablement à une opportunité de repenser un paradigme de l'échange entre les hommes et leur environnement, entre la ville et la campagne, entre les groupes sociaux? Ou bien n'est-on tout simplement que dans une économie de subsistance, donc pas facile à vivre aussi, hein, intégrée elle-même à un système économique dominant? C'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois on ne peut pas souhaiter la pénurie, nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents ont en souffert de la pénurie, hein, donc ce n'est pas un modèle tout à fait désirable. Et dans le même temps, on sent bien que ça peut nous apporter des éléments intéressants quant à la manière de peut-être d'imaginer une autre manière, un autre style de vie, on va dire, en termes de consommation. Ou bien on fait le pari, ça sera quasiment mes derniers mots, de ce que j'appelle moi un renversement anthropologique, c'est-à-dire que là, on se tourne du côté de l'anthropologie, des enseignements, là encore, des chercheurs de terrain ou des auteurs comme Marshall Salins dans sa Société d'abondance, à savoir que l'étude des sociétés traditionnelles nous apprend que, à partir du moment où on a des besoins qui sont relativement modestes et peu nombreux, qu'on met en œuvre des moyens, donc des fins, répondant à ces besoins, on préserve l'environnement, on est dans une relation d'équilibre et d'adéquation, si vous voulez, entre les besoins et les fins, hein, je vous dis ça de manière assez synthétique ici pour Marshall Salins, et on fait advenir ce que Marshall Salins précisément appelle la société d'abondance. C'est-à-dire, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, la société d'abondance, pour Marshall Salins, c'est bien l'idée d'un équilibre humble. Nos amis québécois parleraient peut-être de simplicité volontaire appliquée à une société en tant que telle, et qui peut peut-être permettre d'imaginer un avenir plus radieux. En tout cas, nous sommes quelques-uns, et notamment ici au pôle risque de la MRSH, mais aussi dans les partages que l'on a avec nos collègues de différents pays et au sein de diverses universités. Nous pensons que nous devons considérer que nous sommes dans la catastrophe et qu'il faut agir à partir de ce postulat qui est absolument autant le mode de vie des Américains n'était non négociable, le constat que l'on fait actuellement ne peut pas être remis en question. Ça a été rappelé à de multiples reprises par les gens du GIEC et d'autres scientifiques. Donc il faut prendre en compte et à bras le corps cette réalité pour peut-être sortir de cela. Et je vous remercie. Voilà. Merci.